Le journal Thomas Cluzel, bonjour Thomas.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Quand la dégradation de la situation sanitaire oblige plusieurs pays européens à réimposer des confinements, tempérant d'autant les espoirs liés à la mise en œuvre d'un vaccin contre le coronavirus, nous nous rendrons notamment en Angleterre.
Quid par ailleurs de la stratégie sanitaire française, Thomas, lors d'un déconfinement au profit d'un couvre-feu nocturne?
Oui, l'occasion également de remarquer que cette sortie aujourd'hui du confinement ne concerne pas tout le monde, puisque les restaurateurs et les lieux culturels restent fermés. Plusieurs rassemblements du monde de la culture sont d'ailleurs prévus aujourd'hui. Nous serons en direct de la manifestation Place de la Bastille à Paris.
Toujours en France, Emmanuel Macron a ouvert la voie hier soir à la tenue d'un référendum sur le climat.
Référendum dont l'organisation reste toutefois encore assez largement incertaine. Enfin, à la veille de la remise de son prix Sakharov décerné par le Parlement européen, nous écouterons la représentante de l'opposition biélorusse aujourd'hui en exil, Svetlana Tikhanovskaya. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Le féminisme peut-il nous aider à repenser le monde, à réinventer le pouvoir, alors que Joe Biden et Kamala Harris sont aujourd'hui officiellement nommés, enfin élus à la présidence des États-Unis avec une victoire confirmée par les grands électeurs. Nous en reparlerons avec notre invitée, la géopolitologue américaniste Marie-Cécile Nave.
En célébrant le 1er janvier dernier l'avènement d'une nouvelle décennie, qui aurait pu imaginer ce que 2020 réserverait au monde? En quelques mois à peine, le nouveau coronavirus aura paralysé les économies et dévasté des communautés entières. Or voilà qu'en cette fin d'année, la pandémie se propage à nouveau comme une traînée de poudre en Europe. Direction l'Angleterre, tout d'abord pionnière dans le lancement des vaccinations. Londres et certaines régions du sud-est de la province britannique viennent de basculer en niveau d'alerte très élevé, soit le dernier des 3 degrés du système d'alerte gouvernementale. Et ce, en raison d'une augmentation exponentielle des cas de Covid-19, une nouvelle flambée qui, selon les autorités, Richard Place, pourrait être lié à une mutation du virus.
Un millier de malades contaminés par cette variante du virus, c'est ce que les autorités sanitaires britanniques ont découvert ces derniers jours. Une mutation qui accélère la propagation de la maladie, selon Matt Hancock, le ministre de la Santé.
Tous ces cas ont été identifiés dans près de 60 endroits différents et les chiffres augmentent rapidement. Je ne suis pas stressé à ce stade. Rien ne suggère que cela causerait une maladie plus grave. Et les derniers avis cliniques disent qu'il est hautement improbable que cette mutation résiste à un vaccin.
L'Organisation mondiale de la santé a aussitôt été informée, les données sont partagées en temps réel. Et des variantes, l'OMS en a déjà vu beaucoup. C'est commun, dit Michael Ryan, responsable des situations d'urgence sanitaire.
Est-ce que ça rend le virus plus grave? Se transmet-il plus facilement? Complique-t-il le diagnostic? Les effets du vaccin sont-ils altérés par cette mutation? Voilà les questions qui se posent, et nous n'avons aucune information suggérant que ce soit le cas.
Le virus galope dans le sud de l'Angleterre depuis plusieurs jours maintenant. Le gouvernement a décidé d'accroître les restrictions dans la capitale et les alentours. À partir de demain, fermeture des restaurants et des salles de spectacle.
Toujours face à cette dégradation de la situation sanitaire, les Pays-Bas, eux, ont décidé d'imposer un nouveau confinement d'au moins 5 semaines à partir d'aujourd'hui, avec notamment fermeture de tous les commerces jugés non essentiels, mais aussi des écoles et de tous les lieux accueillant du public. Les rassemblements de plus de 2 personnes vont être interdits. Bref, un dispositif plus contraignant encore que celui instauré face à la première vague de l'épidémie au printemps dernier. De son côté, l'Italie envisage de renforcer les restrictions en vigueur au niveau national pendant les fêtes de fin d'année. Enfin, l'Allemagne, elle, se reconfinera dès demain et ce, pour 3 semaines. Quant à la France, où une sortie de la crise sanitaire s'avère comme partout bien plus difficile que prévu, eh bien c'est aujourd'hui qu'elle va sortir, elle, de son 2e confinement. Après 1 mois et demi de restrictions, les Français vont en effet à nouveau pouvoir se déplacer sur tout le territoire national et sans attestation, sauf durant le couvre-feu qui débutera ce soir à partir de 20h et jusqu'à 6h. Alors évidemment, au regard des différentes mesures restrictives mises en place chez nos voisins, la stratégie choisie par la France interroge. Le couvre-feu est-il une carte maîtresse pour maîtriser l'épidémie et éviter une 3e vague? Faut-il, comme certains le souhaitent, lancer un dépistage de masse de la population à l'échelle de tout le pays pour limiter les risques de contamination? Enfin, quid de la vaccination? Ce matin, l'Allemagne, qui s'impatientait face au temps pris par les autorités européennes pour approuver le vaccin déjà utilisé par plusieurs pays, assure qu'il sera disponible avant Noël. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Comment expliquer aujourd'hui donc la stratégie française, Tara, qui à bien des égards tranche donc avec celle de nos voisins européens?
La situation sanitaire est différente dans chaque pays que vous avez cité, Thomas. Aux Pays-Bas, les contaminations ont dépassé 10 000 cas en 24 heures ce week-end. En une semaine, le nombre de morts a augmenté de 14% pour franchir la barre des 10 000 décès, qui est très symbolique, en raison du brassage de la Saint-Nicolas. Résultat, reconfinement, vous l'avez dit, pendant 5 semaines. En Allemagne, scénario similaire, le pic de plus de 600 morts en une journée a été atteint en Allemagne le 10 décembre, alors que jusqu'à début novembre, les Allemands dépassaient à peine une trentaine de morts par jour. Eux qui ont bien résisté à la première vague ont aussi enregistré plus de 30 000 contaminations en 24 heures. Ça, c'était la semaine dernière. Et pareil, ce sont des seuils symboliques qui obligent les politiques à agir. En Italie, le gouvernement, vous l'avez dit, envisage des mesures, mais il n'a rien annoncé à ma connaissance de précis pour l'instant, sachant que dans la péninsule, le nombre de décès recule, moins 12% sur une semaine, même si le pays est l'un des plus endeuillés au monde avec plus de 65 000 morts. Ce mini répit fait que pour l'instant, il n'y a pas encore de reconfinement officiel. Et en France, eh bien les chiffres ne sont pas si mauvais. Seulement 3 063 nouveaux cas en 24 heures hier, contre 11 000 par jour avant le week-end. C'est sans doute surtout parce qu'on teste moins le dimanche, mais un peu plus largement sur une semaine quand même. Le nombre de morts est en léger recul de 0,5% en France, ce qui explique peut-être le déconfinement actuel.
Et puis toujours en France, donc parmi les toutes nouvelles mesures annoncées, le Premier ministre a suggéré ce matin que les enfants qui le peuvent n'aillent pas à l'école jeudi, vendredi prochain, afin de limiter les risques de contamination à Noël. Jean Castex qui reprend ainsi à son compte, Tara, une recommandation du Conseil scientifique.
Oui, le Conseil scientifique qui rappelle qu'on n'est pas encore tombé sous les 5000 nouvelles contaminations par jour à part hier et que le virus circule donc activement. La seule vraie protection, il a raison, eh bien c'est de ne pas croiser le SARS-CoV-2 et de donc ne voir personne. Ça vaut pour les enfants qui toutefois ne sont pas très contagieux, croit-on savoir. Je vous rappelle qu'à Crépy-en-Valois, l'Institut Pasteur avait montré dans une école que les élèves développaient 4 fois plus de formes asymptomatiques du Covid que leurs enseignants, et s'ils toussent moins, a priori, ils sont moins dangereux pour leur entourage. Enfin, c'est l'une des hypothèses qui explique qu'il y ait relativement peu de clusters dans les écoles pour l'instant.
Merci Tara Schlegel. Alors toujours s'agissant de cette suggestion ce matin du Premier ministre de ne pas mettre donc ses enfants à l'école jeudi et vendredi, la proposition suscite déjà un certain nombre de questions. Pourquoi l'annoncer aussi tardivement? Les parents auront-ils seulement le temps de se retourner pour trouver une solution de garde? Et le cas échéant, s'ils devaient par ailleurs répondre à leur obligation de se rendre au travail, dès lors cette recommandation de confiner les plus jeunes aurait-elle encore du sens d'un point de vue strictement sanitaire? Hakim Kasmi a joint au téléphone Rodrigo Arenas, le coprésident de la FCPE, qui juge cette décision incompréhensible.
C'est une décision qui nous paraît extrêmement curieuse, dans la mesure où on a expliqué aux parents pendant des mois, et nous avons d'ailleurs été relais de cela, que l'école n'était pas contaminante. Et aujourd'hui, avec cette préconisation, eh ben, ça sous-entend qu'elle l'est, puisqu'on demande aux parents de garder les enfants à la maison pour ne pas contaminer leur foyer, en particulier leurs grands-parents. Donc c'est une mesure aujourd'hui qui est incompréhensible, notamment au regard du terrain. Pourquoi ? Parce que les parents, eux, ils sont pas en vacances. Les parents, ils travaillent. Donc inévitablement, pour pouvoir faire cela, il va falloir que les parents soit posent des jours de vacances, soit fassent appel à la solidarité familiale. Donc du coup, on recontamine tout le monde. Donc tout ça n'est pas très sérieux. Et pardonnez-moi de le dire de cette façon-là, mais la meilleure façon de protéger les grands-parents et les personnes qui sont vulnérables, en fait, eh ben c'est simplement de rester en fait de fin d'année dans la famille la plus intime, c'est-à-dire les parents et les enfants. C'est ça la vraie mesure à faire. Et c'est ça être citoyen. En tout cas, c'est ce que beaucoup de parents nous disent qu'ils vont faire à contre-cœur et à mort dans l'âme pour ces fêtes de fin d'année.
Voilà, Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE, il répondait à Hakim Kasmi. Alors malgré des airs de déjà vu, ce déconfinement mis en place aujourd'hui est en réalité très différent de celui du printemps dernier, et en particulier parce que cette fois-ci, les théâtres, les salles de spectacle, les cinémas, les musées resteront fermés au moins jusqu'au 7 janvier. Or, cette décision, justifiée selon les autorités par le fait d'éviter d'accroître les flux, les brassages de public, a aussitôt provoqué la colère du monde de la culture. Les professionnels et syndicats dénoncent une mise à mort de leur secteur, et pour se faire entendre, plusieurs rassemblements sont donc prévus aujourd'hui dans toute la France. Alors à Paris, le rendez-vous a été fixé place de la Bastille, où vous vous trouvez. Anne Lamotte, bonjour.
Bonjour Thomas.
Je précise tout de suite que ce combat des professionnels de la culture sera mené parallèlement devant les tribunaux, puisque syndicats et artistes ont annoncé saisir le Conseil d'État via un référé liberté, une procédure d'urgence en somme, comme ont pu le faire par exemple ces dernières semaines les professionnels de la restauration. Quoi qu'il en soit, Anne, ce rassemblement aujourd'hui est donc le tout premier des représentants du monde de la culture.
Oui, le premier à Paris, après quelques petits rassemblements ici et là en région ces derniers jours. Et pour ce premier rassemblement parisien, les professionnels de la culture répondent présents, Thomas. Ils sont des milliers rassemblés ici, place de la Bastille. Tellement de monde que ça commence sérieusement à bouchonner. Alors on voit des pancartes, la culture, nourriture essentielle. On voit des marionnettes, des guitares, des nez rouges. On entend des chants aussi, petit papa virtuel par exemple tout à l'heure. Et on croise... Par exemple, Anne Montfort. Bonjour Anne.
Bonjour.
Vous êtes metteuse en scène, vous avez fondé la compagnie Deaf on Night il y a 20 ans à Besançon. Vous faites partie du bureau du Syndéac, le syndicat national des entreprises artistiques et culturelles. Et en ce moment, vous bossez à Paris. Alors on l'a dit, premier rassemblement parisien depuis le 17 mars dernier, depuis le début du confinement. Est-ce que ça veut dire que le milieu de la culture passe à l'offensive aujourd'hui ?
Oui, parce que je pense que comme on a été très sage, on a réfléchi des protocoles sanitaires très responsables depuis le début, qu'on a bien voulu accepter de rester fermé si ce qui était équivalent à notre secteur restait fermé. On a peut-être tardé à se manifester, mais là c'est vrai qu'il y a une colère assez forte, notamment depuis 3 semaines, quand les commerces dits non essentiels ont rouvert.
Et voilà. Depuis le 27 novembre, en exact, quand les commerces ont rouvert. Là, vous avez l'impression véritablement d'une injustice totale.
Absolument. Et puis il y a effectivement la question des lieux de culte. Enfin, et pour nous, il y a vraiment une question de pourquoi nous, on reste fermés, alors qu'on a justement mis en place des protocoles sanitaires depuis le début, qu'on propose d'ouvrir en demi-jauge, voire moins, si en cas de recrudescence épidémique, ce qui est le cas actuellement, qu'on a déjà été fermé un bout de temps, donc la recrudescence épidémique n'est pas de notre fait. Donc voilà, il y a effectivement. Et puis surtout, c'est la portée symbolique de cette décision, enfin de cet oubli volontaire ou involontaire, qui nous semble très compliqué, à savoir de garder fermés les lieux de l'émancipation, de la liberté de penser, les lieux où on est ensemble pour traverser des émotions artistiques, partager des idées. Voilà. Et il me semble que les périodes où on a empêché les gens de se rassembler n'ont jamais été des périodes très émancipatrices dans l'histoire de notre pays.
Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec Jeanne Balibar qui déclarait ce matin sur l'antenne de nos confrères de France Inter que c'était une volonté délibérée du gouvernement d'agresser le monde de la culture ?
Je ne sais pas si c'est une volonté délibérée d'agresser le monde de la culture, mais si c'est un oubli, croyant à l'inconscient, je trouve que c'est un oubli extrêmement violent, voilà, et qui raconte un impensé total, en fait. Voilà. Et surtout, ce qui est quand même très compliqué pour nous, c'est qu'on nous avait dit initialement qu'on rouvrirait plutôt en janvier, on nous a annoncé la date du 15 décembre, on a réorganisé toute une série de choses, des répétitions, les équipes dans les théâtres sont épuisées parce qu'ils passent leur temps à relancer les réservations, voilà. Et le public en plus est au rendez-vous, le public veut revenir. Et du coup, c'est cette histoire de nous annoncer...
De yo-yo, en fait.
Voilà. Et là, on nous annonce le 7 janvier, mais on sait que le 7 janvier...
Le 7 janvier, c'est une date de revoyure.
Donc peut-être ça sera le 20 janvier, peut-être pas. Enfin, donc ça commence à être très très fatigant et tout le monde est épuisé de cette situation.
Vous-même, puisque en ce moment vous me racontiez que vous êtes en répétition, par exemple ce matin même vous étiez en répétition. Répétez pourquoi ?
En fait, là moi je travaille à l'ESSAD, qui est une école supérieure d'art dramatique, dont les écoles elles ont pu rester ouvertes. Voilà. Donc ça,
mais sinon impossible aujourd'hui de répéter alors que vous pouvez répéter, mais à quoi bon le faire ?
Alors, en général, toutes les équipes qui avaient prévu de répéter continuent à le faire. Mais après, c'est extrêmement violent qu'on vous annonce une date de première qui disparaît, qui réapparaît, de mettre les spectacles, comme on dit, au congélo pendant 3 mois. Et ça tue la créativité artistique également. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a le fait des reports va sûrement empêcher de nouvelles créations d'aboutir. De même qu'il y a des films qui ne vont pas sortir. Voilà, donc ça
c'est va être cet vrai... entonnoir.
Absolument.
Ce que vous réclamez aujourd'hui, c'est une date ferme de réouverture, quitte à ce que ce soit dans 6 mois. Vous demandez une date de réouverture et à ce moment-là, de s'adapter avec des protocoles. Mais en tout cas, une date pas de revoyure, de réouverture.
Absolument. Et on peut adapter, encore une fois, nos protocoles sanitaires à la hausse des cas. C'est-à-dire là, pour le moment, on a des protocoles sanitaires où on ouvre à 50% avec un siège vide entre différents groupes, etc., etc. Mais si on nous dit d'ouvrir à 30%, on ouvre à 30%. On veut rouvrir.
Voilà. S'il n'y a que 30 personnes, 10 personnes dans une salle, pour vous, ça vaut le coup ?
C'est toujours rencontrer le public. Ce n'est absolument pas une revendication corporatiste qu'on a. Nous, on pense surtout et beaucoup au public, aux gens qui ont envie, besoin de partager des émotions, des idées, parce que il y a un moment, ce n'est quand même pas possible de vivre sans ça.
On réfléchit dans un théâtre, en fait.
Absolument.
Allez-y.
Non, je pense que vous parliez de Jeanne Balibar tout à l'heure, et je trouve qu'il y a quelque chose de très important qu'elle a dit, c'est la question du rapport aux lumières. C'est-à-dire que vraiment, pour moi, c'est ça la question. C'est l'émancipation, la liberté, la pensée.
Le pays des lumières.
Voilà.
Est-ce que c'est le premier rassemblement d'une série ?
Peut-être.
Vous y réfléchissez en tout cas. Merci beaucoup Anne Montfort et je vous laisse retrouver vos très très nombreux collègues ici au Place de la Bastille à Paris.
Merci beaucoup.
Merci Anne Montfort, metteuse en scène, et merci également à vous Anne Lamotte, donc en direct de cette manifestation à Paris, ainsi qu'à Lucien Lefebvre pour les moyens techniques. Baisse des recettes et hausse des dépenses, sans surprise la crise du Covid-19 aura eu un impact significatif sur les finances des collectivités territoriales, c'est ce qui ressort d'un rapport de la Cour des comptes publié aujourd'hui. Les départements en particulier pourraient être les plus touchés, alors ce choc est-il pour autant de nature à déstabiliser durablement les équilibres budgétaires et financiers des collectivités ? En clair, la crise risque-t-elle de grever leur capacité à relancer la machine économique ? Élément de réponse avec Marie Viennot.
Les collectivités locales ont abordé la crise dans une situation financière bien plus favorable que l'État, a commencé par dire le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Mais elles ont aussi connu ce qu'on appelle l'effet ciseau. C'est pour les départements que la situation est la plus critique. Leurs recettes, en partie assises sur les transactions immobilières, ont chuté et leurs dépenses sociales ont augmenté, 6,5% de plus pour le seul RSA. Pour 2020, les départements anticipent une baisse de 45% de leur épargne globale. L'État a prévu des compensations dans ses lois de finances rectificatives. Il a aussi recentralisé le versement du RSA pour la Guyane, Mayotte et La Réunion. Des discussions sont en cours en ce moment avec la Seine-Saint-Denis. Mais dans ce contexte, écrit la Cour des comptes, la contribution des départements au plan de relance est incertaine. De leur côté, les communes ont collecté moins de taxes de séjour via les hôtels, moins de recettes de stationnement, moins de loyers, moins de recettes des équipements sportifs, culturels ou de loisirs qui sont fermés. Elles ont en revanche maintenu, voire accru, leurs subventions aux associations et là aussi donc effet ciseau et baisse de 30% de leur épargne. Les régions, elles, s'en sortent mieux car leurs recettes ont été moins affectées. De fait, a souligné Pierre Moscovici, sur les 195 milliards d'augmentation du déficit en 2020, l'État compte pour 95 milliards, les organismes de sécurité sociale 95 milliards et les collectivités locales 5 milliards. Mais ces chiffres ne sont pas définitifs, ce sont des estimations et il faudra attendre mi-2021 pour connaître l'effet réel de la crise sanitaire sur les finances locales.
S'agissant toujours et encore des conséquences possibles de la crise sanitaire, le Premier ministre a dit ce matin espérer que le référendum sur le climat annoncé la veille par Emmanuel Macron puisse se tenir si possible avant la fin du quinquennat, en soulignant que cela dépendra de l'évolution de l'épidémie. Sauf que le Covid-19 ne sera pas le seul décisionnaire en la matière. Pourquoi ? Parce que l'introduction de la défense de l'environnement dans la Constitution devra être au préalable votée par le Parlement. Or, cette seule condition rend déjà la tenue de cette consultation incertaine. Sans compter que cette annonce suscite également un certain nombre de critiques, en l'occurrence quand les spécialistes du droit font remarquer que ce que propose le chef de l'État existe déjà depuis presque 15 ans avec la Charte de l'environnement. Les élus de l'opposition, eux, ne sont pas tendres avec Emmanuel Macron et dénoncent Rosalie Lafarge rien de moins qu'un enfumage.
À droite, on crie à l'instrumentalisation, à l'extrême droite, on dénonce la manœuvre politicienne, mais chez les écologistes, évidemment, sur le principe, on valide.
C'est une victoire culturelle majeure pour les écologistes.
Le secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, Julien Bayou, attend tout de même des garanties sur la formulation de la question pour qu'en cas de oui, on puisse réellement s'appuyer sur l'article 1, nouvellement rédigé.
C'est possible de prendre appui si la formulation est très exigeante. Si on disait qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'impératif de protection de l'environnement, de la biodiversité et du climat, on ne pourrait pas réintroduire les néonicotinoïdes. Si je dis favoriser l'action contre le dérèglement climatique, ça n'a pas du tout le même sens. Vous ne pouvez pas prendre appui dessus pour contester une loi climaticide, par exemple.
Mais au-delà des mots, se pose la question de la faisabilité d'abord. L'organisation de ce référendum ne pourra intervenir qu'après un vote de l'Assemblée et du Sénat, à majorité de droite. Et cela rend l'affaire très incertaine, souligne le politologue maître de conférence en droit public à Paris 2, Benjamin Morel.
On a tout de même des fortes réticences sur le fond au Sénat. Et ensuite, il y a évidemment des réticences politiques, parce que le temps que ce projet de loi passe par les méandres du Parlement, il ne sera pas soumis à référendum avant l'été, voire l'automne. Ce sera le début de la campagne présidentielle. Donner la possibilité au président de la République de recevoir l'onction de l'opinion dans un référendum, ce serait peut-être pas aussi facilement gagné, mais qu'importe. Pour un opposant politique, c'est évidemment un mauvais début de campagne, donc c'est complexe.
S'il arrivait finalement à se tenir, ce référendum serait le premier en France depuis la victoire du non à la Constitution européenne en 2005.
Et c'est encore dans ce contexte donc que le Haut Conseil pour le climat lui a jugé ce matin que le plan de relance français était, je cite, insuffisant pour enclencher une rupture à long terme, comprenez les transformations structurelles qui conduiraient à décarboner l'économie. Plus exactement, 70 des 100 milliards d'euros prévus par ce plan pourraient, selon les experts du HCC, avoir un effet significatif à la hausse sur les émissions de CO2. Au Nigeria, Boko Haram a fini par revendiquer ce matin l'enlèvement de centaines de lycéens. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, plus d'une centaine d'hommes armés à moto ont en effet attaqué un pensionnat. 333 adolescents ont disparu. Alors, on se souvient qu'en 2014, déjà le même groupe terroriste avait enlevé 276 lycéennes. C'était à Chibok, dont seulement une centaine ont d'ailleurs été retrouvées à ce jour après s'être enfuies ou libérées. Une nouvelle attaque, donc, qui montre Claude Guibal combien le groupe djihadiste est loin d'être affaibli.
Au départ, certains ont cru à une attaque de groupes locaux. Enlèvement de personnes ou de bétail contre rançon, la pratique est hélas fréquente dans cette région d'Afrique. Mais la revendication de l'enlèvement de ces adolescents par Boko Haram en change la portée politique, car la zone où s'est produite l'attaque est très éloignée de l'état de Borno, le fief de Boko Haram, là où le groupe terroriste a revendiqué le mois dernier le massacre de dizaines d'ouvriers agricoles. Le groupe que l'on disait affaibli cherche en fait à prouver son pouvoir de nuisance face à ses rivaux. Une partie des combattants de sa branche originelle a en effet fait sécession pour rejoindre l'ISWAP, l'état islamique en Afrique de l'Ouest. Longtemps, Boko Haram n'a représenté qu'une menace, limitée localement, raison pour laquelle, au-delà de l'émotion, la lutte contre ce groupe djihadiste n'a jamais mobilisé les mêmes moyens que celle contre Al-Qaïda ou l'État islamique. Les experts pourtant désormais s'inquiètent face à l'extension, face aux connexions des différents groupes djihadistes entre eux, entre ceux présents au Sahel et ceux des bords du lac Tchad. Une jonction terrifiante si elle s'opérait dans cette région stratégique, devenue le point focal du djihadisme mondial depuis la chute de Daesh en Syrie et en Irak.
Une liste d'obligations et d'interdictions assorties de sanctions dissuasives en cas de non-respect. C'est aujourd'hui que la Commission européenne doit présenter son plan pour imposer sa loi aux géants du numérique accusés d'abuser de leur pouvoir sans assumer leurs responsabilités. Le Parlement européen remettra lui demain son prix Sakharov 2020 décerné à l'opposition biélorusse. Voilà plus de 4 mois maintenant que les protestations inédites en Biélorussie contre la réélection du président autocrate Alexandre Loukachenko ont mis sur le devant de la scène notamment une jeune femme, professeure d'anglais, mère de famille de 38 ans, candidate surprise de l'opposition, Svetlana Tikhanovskaya, en route donc vers Bruxelles, mais qui s'est arrêtée à Berlin où elle a bien voulu accorder ce rare entretien à notre correspondant Ludovic Piétenu.
Elle a d'abord été accueillie comme une pop star. Dimanche soir, la diaspora biélorusse se presse sur la place Gendarmenmarkt de Berlin. Habillée d'une parka blanche et d'une écharpe rouge, les mêmes couleurs des drapeaux biélorusses qui s'agitent autour, Svetlana Tikhanovskaya goûte cette soudaine popularité avec un large sourire. Mais l'heure est aussi à la prière pour les victimes de la répression. 300 nouvelles arrestations parmi celles et ceux qui au même moment manifestent comme tous les dimanches depuis 4 mois au cri de vive la Biélorussie.
Bien sûr, les gens sont fatigués, mais ils sortent pour manifester. Peut-être plus en aussi grand nombre, mais vous devez comprendre que leur volonté ne s'éteindra pas.
C'est un point qui l'agace. N'allez pas lui dire aussi que les grèves commencées cet été sont moins suivies aujourd'hui.
Les travailleurs s'organisent en comité. La grève, c'est nouveau pour les Biélorusses. Ce n'est pas forcément très visible ou évident. Ils doivent se cacher, mais il y a des grévistes tous les jours et le président Loukachenko est constamment sous pression.
Mais cette opposition biélorusse manque cruellement de soutien, comme celui des Allemands, a-t-elle dit hier soir au président Steinmeier, qui la recevait dans son château à Berlin. Il manque la voix de tous les autres Européens, devenus de son point de vue bien silencieux. Elle leur demandera aujourd'hui et demain, lors de son séjour à Bruxelles, d'allonger la liste liste des sanctions en s'attaquant aux énormes entreprises publiques.
Ces entreprises d'État sont comme un porte-monnaie pour Loukachenko. Elles le soutiennent financièrement et cet argent sert à la répression contre son peuple. C'est pourquoi nous demandons des sanctions économiques contre ces organisations.
C'est une partie de l'édifice qui maintient Alexandre Loukachenko depuis 26 ans au pouvoir. Il y a aussi Moscou qui sert de béquille.
Moscou ? Mais le sujet, c'est la Biélorussie, pas Moscou.
Après cette réaction un peu surjouée, Tikhanovskaya admet tout tenter pour que le Kremlin influence la situation en faveur de l'opposition biélorusse, mais a-t-elle au moins réussi à établir le contact ?
Non.
Non, répond-elle. Aucun.
On termine avec un mot du temps pour cet après-midi généralement pluvieux. Deux départements, les Landes et la Gironde, ont été placés en vigilance orange pour des risques d'inondation. Quant aux températures, elles afficheront entre 9 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Brice Garcia. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Claire Flochel pour le prochain journal de la rédaction.